تعبد الله ولا تشرك به شيئا. Maintenant qu'on a compris ce que c'est que l'adoration, il faut savoir qu'on ne peut concevoir cette adoration que si elle est à l'abri du shirk. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab dit: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتي فاعلم أن العبادة لا تسمى العبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة. Maintenant que tu as compris ce que c'est que l'adoration, ce que c'est que adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sache que cette adoration ne peut être l'adoration légiférée par Allah que si elle repose sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que si cette adoration connaît le shirk. Non? Si cette adoration connaît le shirk, ça veut dire que si elle est mélangée au shirk, le shirk va la détruire. C'est pour ça qu'après avoir recommandé à Mu'adh d'adorer Allah en lui voyant le culte sincère et exclusif, le prophète a précisé voilà tout shirk bihi shi'a, parce que c'est ce qui implique automatiquement la tawhid. Le tawhid, la notion de l'adoration selon la charia, implique automatiquement qu'on se mette à l'abri du shirk et qu'on ne donne pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète dit « Wala tushrik bihi shay'a » N'attribue aucun associé à Allah. « Nakira fi siyakin nahi » Tupidu al-umum » Ça implique la globalité. Ça veut dire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui adore Allah se doit de détourner de l'adoration de ces choses-là. Quelle que soit la nature de cette chose-là, on se doit de s'en écarter, d'éviter le shirk. Mais, pour comprendre l'importance de la tawhid et de la mise en garde contre le shirk, il faut revenir à la définition du shirk en elle-même. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو دعوة غير الله معه en parlant du shirk. Il dit, c'est le fait d'adorer un autre avec Allah. Méditez bien sûr les termes utilisés par le shirk. C'est le fait. Est-ce qu'il a dit que c'est le fait d'adorer un autre en dehors d'Allah? Non, il a dit que c'est le fait d'adorer un autre avec Allah. Ça veut dire que celui qui tombe dans le shirk, à la base, c'est celui qui adore déjà Allah. C'est pour ça que celui qui adore Allah, c'est celui-là qui se doit d'avoir peur du shirk. Parce que c'est lui que le shirk concerne. Le shirk ne concerne pas celui qui adore un autre en dehors d'Allah. Mais le shirk concerne celui qui adore déjà Allah. Parce que le shirk ne devient shirk que lorsqu'il a adoré Allah et a adoré un autre avec Allah. Quant à celui qui adore simplement d'autres divinités en dehors d'Allah, il est plutôt un mécréant et polythéiste. Mais il n'est pas associateur. Jusqu'à ce qu'il adore Allah et associe une autre divinité à Allah dans l'adoration. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam a prié qu'Allah subhanahu wa ta'ala le mette à l'abri du shirk. Parce que quand on comprend ce que c'est que le père que le shirk, on comprend que ceux qui sont guettés par le shirk, ce sont les muwahidoun. Ce sont ceux qui adorent déjà Allah subhanahu wa ta'ala en lui voyant l'adoration exclusivement. Or, le shirk a une conséquence grave. C'est que lorsqu'il pénètre les œuvres, il rampe ces œuvres-là. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.
Il t'a été révélé, ainsi que ceux qui sont passés avant toi, que si tu tombes dans le shirk, tes œuvres seront vaines.
وقال الله تعالى وما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وهم وفي النار هم خالدون. Méditez bien sur ces versets.
الله سبحانه وتعالى dit وما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله.
Il ne revient pas. Il ne revient pas aux mécréants. Il ne revient pas aux mécréants d'entretenir les maisons d'Allah, les mosquées. On entretient les mosquées avec quoi? L'adoration, la prière. Donc il ne leur revient pas de prier. Shahidina ala anfusihim bil kufr. Tant qu'ils attestent encore contre leurs propres personnes, tant qu'ils attestent encore de leurs mécréances. Oui. Inch'Allah, on va marquer une pause ici pour mettre les temps et continuer après. هذا والله على وعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. C'est qu'en réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jailli dans une communauté de personnes éparpillées dans leurs adorations. C'est-à-dire que ces mécréants-là, ces associateurs étaient divergents dans leur association. C'est-à-dire que leur association n'était pas de la même nature. Et ce qu'ils prenaient comme divinité n'était pas de la même nature. Minhum man ya'budu ash-shamsa wal-qamar. Il y avait donc parmi ces associateurs ceux qui adoraient le ciel, ceux qui adoraient la lune et le soleil. Minhum man ya'budu al-mala'ika. Il y en avait qui adoraient les anges. Il y en avait qui adoraient les prophètes et les pieux. Et il y en avait qui adoraient les pierres et les statues. Bon, alors les pierres et les bois. Ça serait une statue peut être en pierre comme en bois. Donc ils adoraient les bois et les pierres. Et malgré ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les ont tous combattu. Il les a tous combattus. Parce que même si la nature de leur association, même s'ils étaient divergents dans la nature de leur association et dans la nature de ce qu'ils prenaient comme divinité en dehors d'Allah, ils étaient tous des associateurs. Ils avaient quelque chose qui les réunissait, c'était l'association. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارق بينهم. Ça veut dire qu'en réalité, pour ce qui est du jugement de base, il n'y a pas de différence entre les formes d'association quand ce sont les grandes associations. Toutes ces formes d'association relèvent de la mécréance. Il n'y a pas une seule figure parmi les figures des grandes associations, parmi les formes des grandes associations qui ne relèvent pas de la mécréance. Donc, toutes les formes d'association ont le même jugement, qui est que ces formes relèvent de la mécréance.
قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
Et combat-les afin que le trouble ne se répande pas sur terre. Parce qu'il n'y a pas un trouble plus grand que l'association. Que le fait que l'association se répande sur la terre. C'est pour ça que hier, le frère Yahya a dit ici, et c'est vrai, que si on veut la paix, le gouvernement doit s'occuper.
Non,
des charlatans. Parce que ce sont les têtes penseuses de l'association, qui est le plus grand désordre. Yahri, il faut comprendre bien, il faut bien comprendre. Quelqu'un qui prend le droit exclusif d'Allah et donne à celui qui en réalité n'est qu'une créature, parce qu'en dehors d'Allah, tout ce qui existe sont des créatures. Qu'attendez-vous de cette personne? Qu'il remette aux créatures ce qui lui revient des droits. Yahri n'a pas remis aux créatures ce qui lui revient des droits. Pensez-vous qu'il va établir le droit des créatures, de la créature? Un badin. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune gêne à tuer. Quand ils doivent tuer. Non? À envoyer les démons attaquer les dirigeants, les innocents. Donc on ne peut pas connaître la paix et la quiétude avec les associateurs. Que les charlatans sans aucun doute font partie des associateurs. Qu'Allah nous en préserve de leurs mots. C'est pour ça que le prophète a reçu l'ordre de combattre tous ces associateurs-là, afin que le trouble ne se répand pas sur terre. Et afin que la religion soit vouée exclusivement à Allah, le digne d'être adoré. C'est-à-dire afin que les choses suivent son cours, son ordre. Ensuite, le chef a cité les preuves selon lesquelles tout ce qu'il avait précédemment cité était adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on a compris ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit la nature de celui qu'on attribue à Allah comme associé, c'est-à-dire quelle que soit la nature de celui qu'on adore avec Allah, on est un associateur. Fût-il un prophète, un dieu, une créature, un âme, quelle que soit la nature de la chose adorée avec Allah, on devient associateur. Et le jugement s'applique à nous. Maintenant, la quatrième règle qui nous permet de comprendre le shirk dans sa profondeur, c'est la quatrième règle citée par le chef, qui est أن مشرك زماننا أغلب شركا من الأولين. C'est ça la quatrième règle. En réalité, quand on étudie la situation des associations qui ont été combattues par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on étudie les fondements précédemment cités, on se rend compte que le shirk des associations de notre époque est plus épais que le shirk des anciens. Très, quel est le fruit de ce fondement? Ça veut dire que si le shirk qui était moins épais que ce shirk avait été combattu par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et que les associateurs qui commettaient un shirk moins épais que le shirk qui est commis en ce moment étaient combattus, ceux qui commettent le shirk qui est plus épais que ce shirk, se doivent être combattus. Or, il y a dans les rangs des musulmans ceux qui commettent le shirk, ce shirk qui est plus épais que le shirk des awwalin. D'ailleurs, le chef ne parle pas sur la base de ses passions parce qu'il a dit que ces quatre fondements se trouvent dans le Coran. Tous les fondements que nous allons citer là se trouvent dans le Coran. La preuve, c'est que Al-Awwaloun, كانوا يشركون في الرهاب ويخلصون في الشدة. Ça, c'est une figure parmi les figures qui attestent de l'épaisseur du chirme des gens de nos jours. Et que ce chirme est plus épais que le chirme des anciens. C'est que les anciens vouaient l'invocation exclusivement à Allah lorsqu'ils se retrouvaient dans des situations compliquées, d'angoisse. Et n'associer Allah au Subhanahu wa Ta'ala que dans les âmes. Quand il n'était sous aucune menace, quand il se sentait à l'aise, contrairement aux mushrikoun de nos jours. Le shirk est permanent. Quand il a l'argent, il fait le shirk. Quand il est pauvre, il fait le shirk. Quand il a les problèmes, il fait le shirk. Quand il n'a pas les problèmes, il fait le shirk. Contrairement aux anciens. Et je veux vous citer un exemple palpable. Les anciens, lorsqu'ils voyageaient et se sentaient en voyage, pendant le voyage, se sentaient en danger pendant le voyage, comment est-ce qu'ils se comportaient? Ils arrivaient pour qu'ils quittent à Allah, mon président, alors vous dites, lorsqu'ils empruntaient la pirogue. Et qu'en plein mai, les vagues commençaient à balancer la pirogue avec les vents violents. Les gars savaient que c'est lui qui détient le pouvoir, qui gère les vagues, qui envoie les vents, c'est Allah. Et que personne ne peut se mettre au travers de ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a envoyé. C'est pour ça qu'il vouait l'adoration exclusivement à Allah à ce moment précis, en invoquant Allah tout seul. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les guidait jusqu'à leur destination, c'est à ce moment qu'il replongeait dans le shirk. Est-ce que ce n'est pas le shirk? C'est le shirk. Mais un shirk circonstanciel est moins épais qu'un shirk permanent. Or, le shirk de la grande majorité d'associateurs d'aujourd'hui est permanent. C'est pour ça que dans les ans, les gars partent voir les charlatans pour qu'ils les aident à préserver leurs biens. Dans la chicha, ils partent voir les charlatans pour qu'ils les sortent de cette situation. Non? Le ngosu. Non. Allah Moukaad. Donc, je n'ai pas bien compris ce que le chef a dit. Voilà, donc il y a parmi les musulmans aujourd'hui ceux qui font le contraire, totalement le contraire de ce que faisaient les polythéistes, les premiers associateurs. Pourtant, ils ont tous été combattus par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'en réalité, il y a dans le rang des musulmans ceux qui n'ont pas compris ce que c'est que le shirk et qui chantent la ilaha illallah, alors qu'en réalité, si le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les avait vus, il les aurait combattus. Et avant, il les aurait combattus avant les premiers associateurs parce que le shirk est plus de fait. J'avais compris l'importance de ce fondement. Parmi les figures qui montre clairement que le shirk des anciens est moins épais que le shirk des gens de notre époque, c'est que les anciens reconnaissaient que ce qu'ils font, c'est le shirk. Ils ne s'entêtaient pas avec Allah. Non, ils n'aman abuduhum. Yadu akaru bi an hadi ibada. Ils ont reconnu que ce qu'ils vouent à cette divinité qu'ils prétendent les rapprocher d'Allah, c'était des actes d'adoration, alors que ceux qui le souffrent, ils n'acceptent pas que quand il va adorer le mort, il est en train d'adorer le mort. Vous savez que son chiffre est encore plus épais, plus grave, parce qu'il refuse même de soumettre son acte au reste de la révélation, qui traduisent clairement que son acte est un acte d'adoration. Vous avez compris ce oui? C'est que les anciens reconnaissaient. Ça, c'est un autre aspect qui atteste de la véracité de cette règle et de ce que le chef a dit ici, de l'épaisseur du chiffre des gens de cette époque. Parmi les figures qui attestent de la véracité de ce fondement, c'est que de tout ce qui est cité dans le Coran, tout ce qui est cité dans le Coran comme divinité, ayant été adoré avec Allah par les associateurs, il n'y a aucun pervers. Il n'y a aucune créature qui désobéit à Allah. C'est soit une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'air au mukalla, c'est-à-dire qui ne désobéit pas à Allah. Comme la lune, comme le soleil, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne s'opposent pas, c'est-à-dire qui ne désobéit jamais à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fonctionne qu'en fonction des ordres d'Allah. Il y en avait qui adoraient les anges. Et les anges sont des créatures nobles. Ce sont des créatures nobles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées à partir de la lumière. Qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et ne font que ce qu'Allah a ordonné. Écoutez bien. Et malgré ça, ceux qui les ont adorés, Allah les a considérés comme des associateurs et a ordonné au prophète de les combattre. Hey. Parmi les choses qui ont été adorées en dehors d'Allah, ce sont les prophètes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Par rapport à ceux qui adorent Isa alayhi salam. Parce que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le jour de la résurrection, se détournera de celui qui l'adorait. Y compris les prophètes, tous ceux qui adorent les prophètes. C'est pour ça que les prophètes ne leur seront d'aucune utilité. Parce qu'à partir du moment où on adore un prophète, on l'élève au rang d'Allah subhanahu wa ta'ala, on annule le profit qu'on pouvait bénéficier de ce prophète auprès d'Allah. C'est pour ça que le jour de Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans le Coran en disant « وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interpella Jésus, fils de Marie, le jour de la résurrection, et lui posera la question suivante. Oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui avais demandé aux hommes de te prendre comme divinité ainsi que ta mère? Écoutez la réponse de Jésus. Allah subhanahu, purité à toi Allah. Vous voyez la réponse? Purité à toi Allah. Tu es pur. On ne peut t'attribuer que ce qui est pur. Et nous, prophètes, ne pouvons faire que ce qui est pur. On ne peut ordonner que ce qui est pur. Et est-ce que l'association est pure? Même, donc, ça veut dire que si Allah s'était arrivé à ce niveau, subhanah, on allait comprendre la suite du verset. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Purité à toi, Allah. Comment moi, ton prophète, il pouvait me revenir de dire ce qui ne me revient pas de droit. Il ne m'appartient de dire que ce qui est vérité et qui me revient de droit. C'est transmettre ton message. Et qui est le message d'Allah? Quel est le message d'Allah envoyé à tous les prophètes? Voilà, ça devait être pour les ummatin. Rasulah, anikbudullah, wustanibudtarud. C'est ce que Isa alayhi salam a dit aux chrétiens. Donc, il dira, il ne m'appartient pas, purité à toi Allah, il ne m'appartient que de dire ce qui me revient de droit. In kuntu qultuhu. Et si je l'avais même dit, Allah, tu t'aurais su. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Certes, toi, tu sais ce qu'il y a en moi, alors que je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Innaka anta 'allamu al-ghuyub. Tu es le parfait connaisseur de l'invisible. Or, écoutez bien, Isa est en train de démontrer
pas à Allah parce qu'Allah connaît, mais aux hommes parce que ce serait le jour où Allah subhanahu wa ta'ala établira toutes les réalités et donnera la possibilité à qui que ce soit d'exposer la vérité. Et pour dire ce qu'il s'agit, il n'a pas été Allah le royaume. Parce qu'il n'existe que Adam Shahada ou Adam Al-Ghayb. Le monde visible et le monde invisible. Oh, toi tu maîtrises les deux. Donc, c'est clair que je ne l'ai pas dit dans le monde visible. Et tu maîtrises le monde de l'invisible et tu sais que je ne l'ai pas dit dans le monde de l'invisible. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala coupera toutes les causes entre tous ceux qui adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah et ce qu'ils adoraient. Donc, parmi les choses qui attestent les épaisseurs du chiffre des gens de nos jours, c'est que les anciens n'adoraient que soi une chose qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ou une chose parmi les créatures qui n'obéit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire parmi les dieux. Parce que les anges sont les dieux, les prophètes sont les dieux, et ils n'adoraient que les dieux. Alors que de nos jours, parfois le Gosu et le Wali, voilà, il n'a pas de barbe, rase chaque jour. Et on l'adore quand même. Parfois les morts chez qui ils vont invoquer. Parfois les morts chez qui ils vont invoquer auprès des hommes. Et c'est des pervers connus sur terre, qui répandait la correction sur la terre dans ma subhanahu wa ta'ala. Vous voyez la différence entre le shirk, de ces derniers le shirk des anciens. C'est-à-dire que les anciens n'adoraient que les pieux, ou alors des choses qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ceux de nos jours adorent des choses qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un va voir un charlatan qui lui donne des amulettes pour le protéger, le charlatan est un pervers. Le charlatan lui-même est un pervers. Et subhanallah, même avec, quand on lit l'histoire, on se rend compte que plus le temps passe, plus la notion des amulettes se développe. Et les formes d'amulettes se développent. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus les chiffres prennent d'épaisseur et d'ampleur. Contrairement aux chiffres des anciens. Et ça, c'est une figure parmi les figures qui atteste de l'authenticité de ce quatrième fondement cité par le cher. Et il y a plusieurs autres aspects qui attestent de cela. Dans certains voies suffisent de chers bénis. Le wali bénit et parfois même bénit les femmes. Est-ce que ça a du sens? Vous ne voyez pas que ce chirque est plus épais que le chirque des anciens? Yahri, tu pouvais tout dire à un ancien, sauf sa femme. Tu ne pouvais pas prétendre que tu vas bénir sa femme et la tête. Il allait te descendre. Les anciens étaient connus avec leur jalousie et leur pudeur par rapport à la pudeur des associateurs d'aujourd'hui. Renseignez-vous, même au Sénégal ici ça se passe. Dans certains pays et peut-être au Cameroun, parce que les soufis sont capables de tout. Il y en a qui bénissent les femmes via la fornication. Comment est-ce qu'on peut bénir via la fornication? Et celui qui va donner sa femme pense vraiment que c'est la bénédiction.
Or, le simple fait qu'il pense qu'un chef est béni, c'est le shirk. Et ça le sort de l'islam. Le pire, c'est qu'il donne sa femme à un pervers devenu. Donc, il recherche la bénédiction auprès d'un pervers, ce qui était impossible à l'époque des anciens. Hada miwujuhi rilbat shirki al-mutakhiri. Ça, ça fait partie des affaires qui attestent de la gravité du shirk des gens de cette époque. C'est-à-dire que quand on analyse ce pourquoi les premiers mouchriquins sont tombés dans le shirk, on se rend compte que quand on a une faible, un faible esprit et qu'on n'analyse pas bien les textes, on pouvait tomber dans ce shirk. Je ne sais pas si on te comprend. On se rend compte que quand on a un esprit faible et qu'on ne revient pas au texte, on pouvait quand même tomber dans le shirk. Alors que le shirk des gens d'aujourd'hui, on se rend compte que même sans revenir au texte de la révélation, même quand on a un faible esprit, naturel, yani, je veux dire que même avec un faible esprit et même sans revenir au texte, on ne devrait pas tomber dans la forme du shirk des gens d'aujourd'hui. Ça fait partie des choses qui attestent de l'épaisseur du shirk des gens d'aujourd'hui. Parmi les aspects également qui indiquent la gravité du shirk des gens d'aujourd'hui, c'est que les anciens étaient sincères dans leur position. Écoutez bien, ils étaient sincères dans leur position. Et ne cherchaient pas à embrouiller les serviteurs d'Allah. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec le message de l'islam, il leur a dit « Qulu la ilaha illallah tuflihu ». Ils ont compris que dit la ilaha illallah implique qu'on abandonne l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ils ont compris et ont été sincères. Ils ont dit aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja. Donc il a fait des divinités, une seule divinité digne d'être. Il veut qu'on fasse des divinités, une seule divinité qui est celui d'être, qui est celui digne d'être adoré. Certes, cela est une chose étonnante. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam implique qu'on abandonne l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et qu'on ouvre l'adoration exclusivement à Allah. Et comme ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas prétendu être des musulmans. Regardez, ils n'ont pas prétendu être des musulmans. Alors que des gens qui ont accepté le message de l'islam continuent à faire le méchir. Ça veut dire que leur chirque est plus grave. J'avais compris cet aspect. C'est un autre aspect parmi les aspects qui attestent de l'authenticité de ce fondement cité par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça veut dire qu'à partir de ces grands fondements, on comprend donc ce que c'est que le shirk dans sa profondeur. Et que si on reconnaît la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas automatiquement, ça ne veut pas dire qu'on est un mouahid. Non? La reconnaissance de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas dire qu'on est un mouahid jusqu'à ce qu'on voue le culte à Allah exclusivement. Jusqu'à ce qu'on abandonne l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Est-ce que la reconnaissance de la seigneurie ne nous est d'aucune utilité jusqu'à ce qu'on voue le culte à Allah? C'est pour ça que le premier fondement, c'est ça. Non? أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون بالربوبية. Le premier fondement c'est que les mécréants qui ont été combattus par le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم affirmaient et reconnaissaient et attestaient de la seigneurie d'Allah. Mais est-ce que cela avait fait d'eux des musulmans, des croyants? Donc ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un un croyant jusqu'à ce que la personne abandonne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça c'est l'enseignement conduit du premier fondement. L'enseignement conduit du deuxième fondement, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré les différences qui existaient entre les associateurs, les avait tous combattus. Donc toutes les formes de chiffres sont à combattre, à éviter et à combattre. Ça c'est le deuxième fondement. Donc à partir du moment que tu entends de quelque chose, c'est le chiffre qui doit fuir. Quel que soit celui à qui on voue l'adoration avec Allah, tu dois fuir cette attitude-là. Vouer l'acte à un autre en dehors d'Allah, quelle que soit la nature de cet être à qui l'acte est voué. Ça, c'est la leçon qu'on tire du deuxième fondement. La leçon qu'on tire du troisième fondement, c'est que... Ou alors j'ai inversé, c'était le troisième, c'était la leçon qu'on tire du troisième fondement. La leçon qu'on tire du deuxième fondement, c'est que... Non, c'est que le fait de faire le shirk avec une bonne intention ne transforme pas le shirk en bonne œuvre et n'annule pas, écoutez bien, et n'annule pas le jugement du shirk. Parce que nous avons des gens qui ont été cités dans le Coran comme étant des mouchriquins, cités par Allah comme étant des mouchriquins, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a exposé clairement quelle était leur intention quand ils ont commis le shirk. C'était se rapprocher d'Allah. C'était bénéficier de l'interception de ces êtres qu'ils adoraient avec Allah. Ça, c'est ce qu'on retient du troisième fondement. Et ce qu'on retient du quatrième fondement, c'est que le chiffre des gens de nos jours est plus épais. Ça veut dire que, si à l'époque, pour fuir le chiffre, il fallait prendre la poudre de scampette, comme on dit souvent, est roulée à 100 km par heure. Aujourd'hui, il faut rouler à 1000 km par heure. Parce que notre chiffre est plus épais. Ça veut dire qu'il est plus dévastateur, et plus dangereux, et plus proche. C'est tout ce que cela indique. Et plus proche. Et je vais citer un exemple simple et banal. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ata arrafan, fasa'alahu an shay'in, fasaddaqahu bima yaqul, faqad istaghfara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. » Quiconque va vers un charlatan, l'interroge par rapport à une chose, croit à ce qu'il dit, aura certes mécru de ce qui a été révélé, non, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'aura mécru, aura apostasié. Nous sommes d'accord? Oui. Et il ne faut pas confondre ce hadith avec une autre version qui dit « Man ata arrafan, fasa'alahu » لا تقبل له صلاة أو صلاة أربعين يوما. Celui qui va vers un charlatan, celui qui va chez le charlatan et l'interroge, on n'accepte pas la prière de lui pendant 40 jours. Ça veut dire qu'il doit prier, mais sa prière ne sera pas validée pendant 40 jours. C'est une punition divine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est rapproché du ciel, pas parce qu'il est tombé dans les chiffres, puisqu'il n'a pas cru. Il est tellement parti. Il n'a pas cru, parce que s'il croit, il devient mécréant. S'il croit à ce que le charlatan dit, il devient mécréant. Mais il a seulement accompagné une tante qui se rendait là-bas. Il a seulement voulu voir ce qu'ils font souvent quand ils vont là-bas. La punition de s'être rapproché du ciel, c'est que sa prière est invalide pendant 40 jours et c'est que qu'il meurt dans cette situation. Et s'il meurt dans cette situation, est-ce qu'il est mort en pleine soumission? Vous voyez le chien, quand on se rapproche du chien, rien que le fait de se rapprocher, L'exemple que je voulais citer, c'est comment le chiffre est proche de nous, plus proche de nous qu'avant. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de se rendre chez les charlatans? Entrer dans certaines maisons, ou alors dans les maisons de certains croyants, ou alors de certaines personnes qui prétendent être les croyants, les films qu'ils aiment, ce sont les films des charlatans. Les émissions qu'ils aiment, ce sont les émissions qui parlent de la magie, du charlatanisme. Et ils croient tout ce qui passe dans ces émissions, tout ce qui se dit. Il est resté chez lui, il est sorti de l'islam. Yannou saddaqahum, c'est ça la illa. Saddaqahum, bima yakulun. Il a cru au charlatanisme. À ce qu'ils disent, même dans le film nigérien. Quand tu vois quelqu'un disparaître comme ça et apparaître, tu crois qu'il a le pouvoir de faire ça, tu es déjà sorti de l'islam. Vous voyez comment le chiffre est proche de nous. On peut rester à la maison, accomplir les saintes prières, alors qu'en réalité, on est déjà en dehors de l'islam. C'est pour expliquer ce que je vous ai dit, que si avant, il fallait prendre, il fallait rouler à 100, parce qu'on doit fuir le chiffre, ça c'est déjà établi, on doit fuir le chiffre. Maintenant, la vitesse qu'on prend, c'est en fonction de l'épaisseur du chiffre. Si le chiffre des anciens qui était moins épais que notre chiffre, pour l'éviter, il fallait fuir à 100 à l'heure. Aujourd'hui, pour éviter le chiffre, il faut fuir à 1000 km. 1000 km à l'heure, sinon on risquera d'être rattrapé par le chiffre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, vous convenez donc avec moi qu'à la lumière de ces fondements, on comprend que le chiffre est profond et que le chiffre nous guette et qu'on doit tout faire pour être à l'abri du chir. Et c'est ce qu'avaient compris les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète leur a trop parlé du chir, ils ont fini par comprendre que le chir était quelque chose de très proche et qu'il fallait éviter absolument. Et comment le chir ne serait pas quelque chose de très proche alors que ça sort de l'islam? Pourtant le diable circule en nous comme le sang. Ça veut dire qu'il est là, qu'il est permanent, qu'il utilise tous les voies qu'il peut pour nous sortir de l'islam. Et parmi les voies les plus aimées par le diable, c'est la voie du shirk. Pourquoi? Parce que sa conséquence est désastreuse. Et permet au diable de réaliser son rêve. Et s'il n'avait pas dit Sabi Izzatika la Ruyanahum Ajmaïl, et par sa puissance Allah, je vais tous les égarer. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Sauf que ses serviteurs choisis. Et les serviteurs choisis, c'est ceux qui concrétiser la théorie et se mettre à l'abri du shirk. Donc islamiquement, on ne peut pas parler de théorie sans parler de shirk. On ne peut pas apprendre la théorie sans apprendre le shirk. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la théorie et mettait en garde contre le shirk. Ça, c'est un résumé, ce qu'on peut dire de ce par quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Dans le hadith de Mu'adh, en répondant à la grande question, à l'immense questionnement de Mu'adh, radiallahu anhu, quand il a dit, Ta'budullah, wa la tushrik bihi shay'a. Nous allons finir avec le premier point. Thumma